Donc, bonjour et bienvenue sur ce webinaire en compagnie de la NEF, de Fève et de Mimosa. On va parler du financement des agriculteurs aujourd'hui. Et puis, du coup, je vais tout simplement commencer par demander à nos intervenants de se présenter. Marine, si tu veux bien commencer.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Marine Lemoine, je suis banquière itinérante à la NEF depuis 2020. Je suis basée à Nantes. J'ai en charge en gros les Pays de la Loire, un petit peu de l'Expois-Toute-Charente. Ça, c'est ce que je fais. Et donc la NEF, j'enchaîne sur la présentation de la NEF. Du coup, je vous partage juste. Donc la NEF, on est une société coopérative financière qui existe depuis 88, qui a existé pendant quelques années avant en association de préfiguration. Et donc on peut dire encore aujourd'hui qu'on est la première et seule banque 100% éthique en France. Pourquoi? Parce que on fonctionne comme une banque commerciale pure. Sans être banque d'investissement avec une activité vraiment le cœur du métier de banquier qui est d'utiliser l'argent des épargnants pour financer des projets et pas n'importe quel projet puisque c'est des projets qui depuis la création de la NEF doivent absolument avoir une utilité sociétale, sociale, écologique et ou culturelle. Donc c'est plutôt des épargnants qui sont désireux de donner du sens à leur épargne qui placent leur argent à la NEF. Et tous les projets qui sont financés par la NEF, c'est aussi une forme d'éthique, c'est de la transparence, puisque tous les projets financés sont publiés et accessibles à toutes et tous, pas uniquement les épargnants clients, mais également tout un chacun qui souhaite s'intéresser à ce que finance la NEF. C'est pour ça qu'on a pu être classé dans différents classements sur le côté vertueux et impact carbone des banques par les Amis de la Terre, Oxfam, etc. On est aussi le seul établissement financier agréé ESUS, qui est un statut de l'ESS, qui, entre autres, s'assure d'un écart des écarts de salaire, par exemple, de la représentativité. Et la NEF, en termes de taille, on est 117 personnes ici, 20 commerciaux répartis sur toute la France. Et voilà, donc on a vraiment ce premier regard sur l'éthique et est-ce qu'il y avait vraiment une plus-value sociétale apportée par le projet. Et dans un second temps, comme toute banque, le regard vraiment financier, de faisabilité, de comment la banque va être remboursée, qui sont les porteurs et les porteuses de projet, qu'est-ce qu'on va en financer, comment, qui intervient dans le plan de financement, tout ça vient dans un second temps. Et pour compléter, je reviens sur le modèle de la NEF, dans son modèle économique, c'est aussi assez singulier puisque c'est vraiment quasiment essentiellement l'argent des prêts qui nous finance nous et qui rémunère aussi les épargnants. Donc sous-entendu qu'il n'y a pas d'activité de spéculation liée à ce qu'on appelle les banques d'investissement. La majorité des banques françaises sont des conglomérats, sont aussi des banques d'investissement qui ont ces activités de trading, de banques d'investissement, de fusion-acquisition. C'est quelque chose qu'on fait pas et ça se ressent dans notre modèle économique, puisqu'on n'a pas d'autre source de financement que des intérêts de prêt. En gros, voilà.
Ok, merci. Bah, c'est très clair. Du coup,
Il faut que j'arrête.
on voit ce que peut faire la NEF. Est-ce que, du coup, Florian, tu veux enchaîner sur te présenter toi et peut-être un petit peu Mimosa et comment vous fonctionnez?
Bien sûr, Colline. Bonjour à toutes et tous. Merci en tout cas pour votre présence aussi nombreux sur ce webinaire, ce qui prouve l'intérêt pour la thématique et l'enjeu autour du renouvellement des générations. Donc, pour me présenter, donc je m'appelle Florent Breton, je suis le fondateur de Mimosa. Mimosa, c'est une plateforme de financement que j'ai fondée en 2015. Donc, on a un peu plus de 8 ans maintenant. avec l'envie à la fois de faciliter l'accès au capital et au financement pour le monde agricole et agroalimentaire. Donc, on est vraiment spécialisé sur l'agriculture, l'agroalimentaire et également les énergies renouvelables, agricoles, je précise. Et en même temps, de permettre d'offrir l'opportunité à la fois à des entreprises, des institutionnels, mais également des épargnants, d'accéder au financement de la transition agricole alimentaire, d'accéder à cette fierté, à ce sens qu'on offre à travers les produits de financement directement à travers la plateforme. Donc, en quelques chiffres, en 7 ans, en 8 ans, pardon, on a accompagné à peu près 7 000 projets partout en France, un tout petit peu en Belgique également, c'est à peu près 5% de notre activité. On est présent sur place depuis quelques années maintenant. On accompagne des besoins de financement compris entre quelques milliers d'euros avec un produit de financement qui s'appelle le don avec contrepartie en nature, c'est-à-dire que là, les citoyens peuvent donner à des porteurs de projets, toujours en agri et en alimentation bien évidemment, avec des contreparties comme des produits, des séjours ou des expériences. Donc cela permet aussi de créer du lien social entre la société civile, les consommateurs, les citoyens que nous sommes et des agriculteurs en se rendant directement sur les exploitations pour découvrir encore une fois des produits, vivre des séjours et des expériences inédites. Donc là, on est plutôt sur des besoins essentiellement entre 1 000 et 30 000 euros. Et puis, depuis 2018, on opère sur le crédit, où là, on lève de l'argent plutôt pour des montants compris entre 30 000 et 2 millions d'euros, de manière simple et rapide. Alors, comment on fait? On s'appuie bien évidemment sur une communauté de membres. Donc aujourd'hui, Mimosa fédère à peu près 500 000 membres sur sa plateforme, dont à peu près un peu plus de 15 000 investisseurs, épargnants particuliers qui prêtent à des projets. Mais pour aller beaucoup plus loin en termes d'impact et de transition, on a également innové, puisqu'il y a un an et demi, on a créé un fonds plutôt levé auprès d'entreprises et d'institutionnels, qui est aujourd'hui doté de quasiment 50 millions d'euros et qui vient cofinancer de plus grands projets aux côtés des épargnants. Donc, c'est ce qui nous permet en 15 jours, 3 semaines, de monter jusqu'à 2 millions d'euros d'investissement en crédit. Donc ça, c'est un petit peu pour les chiffres. Et d'un point de vue équipe, on est un peu moins de 35 personnes chez Mimosa. Donc on rayonne sur tout le territoire national et également en Belgique, comme je le rappelais. Et puis d'un point de vue stade de vie d'intervention, un tiers de nos projets sont plutôt des projets de création ou reprise d'activité, donc le fameux renouvellement des générations. Et puis les deux tiers sont des projets de développement, d'investissement, à la fois sur du foncier, sur du matériel, sur du bâtiment, sur du cheptel, à peu près tous les sous-jacents, même immatériels, hein, la trésorerie, dont ont besoin aujourd'hui les agriculteurs et le monde agroalimentaire pour pouvoir s'étendre, se développer et répondre aux grands enjeux de transition. Voilà, et en termes de volume collecté au total, on est à un peu plus de 135 millions d'euros d'investissement total. Voilà.
Ok, super, merci. Alors, je vois des questions qui arrivent déjà. N'hésitez pas à continuer à les poser. Je vais soit les poser juste après, en fin de webinaire, soit au fil de l'eau. Pour continuer du coup ce tour de table virtuel, est-ce que Vincent, tu veux présenter un petit peu qui tu es et Fève?
Oui, merci Colline, bonjour à tout le monde. Donc, je m'appelle Vincent Cros et je suis un des trois fondateurs de FEV, de Fermes en Vie. Et parmi ces trois fondateurs, moi je m'occupe plus particulièrement de tous les aspects liés à la collecte auprès des investisseurs particuliers et institutionnels. Et donc on a créé FEV il y a maintenant presque 3 ans pour répondre à un double enjeu. Qui est d'abord le renouvellement des générations d'agriculteurs, puisque 50% des agriculteurs sont en âge de partir à la retraite aujourd'hui, et la transition agroécologique. Sachant aussi que les deux tiers des personnes qui cherchent à s'installer aujourd'hui sont pas des enfants d'agriculteurs, ce qui est un gros changement de paradigme par rapport à ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années. Et donc, pour répondre à ces deux enjeux, le renouvellement des générations et la transition agroécologique, on a décidé de créer une foncière qui a pour objectif de faciliter l'accès au foncier pour des jeunes qui cherchent à s'installer en agroécologie. Et la foncière a un fonctionnement assez simple, puisqu'elle achète des fermes pour ensuite les mettre à disposition de ces personnes-là sous forme de location avec option d'achat, ce qui leur permet de démarrer leur activité en étant locataire de leur ferme et de pouvoir devenir propriétaire à terme s'ils le souhaitent et s'ils en ont la capacité financière, l'option étant complètement à leur main. Et cette foncière, elle est financée aujourd'hui par de l'épargne citoyenne ainsi que par quelques institutionnels. Quand je parle d'épargne citoyenne, c'est des gens qui investissent de 500 euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon leur capacité et qui cherchent avant tout à investir dans des projets à forte utilité sociale et environnementale et qui le font en investissant dans un actif tangible qui est la terre agricole tout en bénéficiant de réduction d'impôts puisque la foncière a un agrément de l'économie sociale et solidaire, l'agrément ESUS dont Marine parlait tout à l'heure d'ailleurs pour la nef. Ce qui permet de donner droit à cette réduction d'impôt pour les gens qui investissent dans la foncière. Et donc la foncière existe depuis aujourd'hui 2 ans et demi. On a collecté, on va s'approcher des 12 millions d'euros collectés auprès de 1100, entre 1100 et 1200 personnes, je crois. On a déjà financé 16 fermes sur ces 2 premières années d'activité, dont 11 cette année. Avec l'objectif d'accélérer pour financer entre 20 et 25 projets l'année prochaine, à commencer dès le mois de janvier. Voilà pour Fèves.
Ok, très bien. Alors, il y a quelques questions, mais je vais les garder un petit peu pour la fin. Juste, est-ce que toi, Marine, tu pourrais nous préciser la NEF, généralement, qu'est-ce que vous financez dans le secteur agricole, puisque Mimosa et Fèves, on a un petit peu plus compris. Est-ce que toi, tu peux parler spécifiquement du secteur agricole pour la NEF?
Yes, ça fait partie quand même des secteurs historiques de la nette finance, puisque dans les premières années, en années 80, c'était vraiment les pionniers de la bio. Donc on va financer plutôt spécifiquement les agriculteurs et agricultrices en bio. Je ne saurais pas dire la proportion, mais quand même il y a une bonne partie où c'est des installations. Moi, personnellement, c'est plutôt ça que j'ai financé, les installations. Un peu de développement pour soit l'achat de matériel ou l'installation de transformation sur place, par exemple, les yaourteries, des choses comme ça. On est assez complémentaires avec Mimosa, puisque en intervention, ça va être un peu compliqué pour nous de financer de la trésorerie. On est plutôt sur comme la plupart des autres banques d'ailleurs, sur du financement de matériel corporel. Donc ça va du foncier à l'équipement, au bâtiment, ce qu'il y a souvent dans les rachats, quoi. Et aussi du photovoltaïque. Parfois on a aussi pas mal là-dessus, beaucoup d'agriculteurs qui investissent pour installer des panneaux photovoltaïques. Et là-dessus, le sous-jacent des centrales est un peu moins, mais un peu moins, comment dire, les critères d'éligibilité sont plus ouverts, quoi, que uniquement le bio. Et même sur le bio, voilà, on a la chance de pouvoir faire du cas par cas sur les projets. Et donc, c'est aussi beaucoup d'affinités, de partage, de valeurs, le côté feeling, les subjectifs quand on rencontre les porteurs des projets. Voilà,
Et
c'est ça.
en termes de montant,
Oui,
est-ce
pardon.
qu'il y a des...
Ouais, les montants, ouais, carrément. On est assez large, c'est à partir de 15 000 euros jusqu'à 2 millions.
Ok.
Mais en ce moment, les moyennes de prêts, on est plutôt sur 150, 150 000.
Ok. Très bien. Donc du coup là, on voit les différences un petit peu donc pour le financement du foncier, du matériel du cheptel par exemple, etc. Quelle solution on va plutôt choisir? Donc c'est vraiment il y a une complémentarité entre les solutions. Aujourd'hui, est-ce que Vincent ou Florian, vous pouvez parler un petit peu de la complémentarité justement de ce type de structure et le fait que ce soit nouveau aussi et puis qu'il y ait des banques comme la NEF qui viennent encore, qui sont plus des acteurs traditionnels, le secteur bancaire. Comment ça se complète et comment ça s'articule aujourd'hui?
Si tu veux commencer ou
Vas-y, vas-y, vas-y. Je prends la suite.
Ok, ça marche. Non, mais alors en fait, si je parle de nous, en fait, nous, on va financer du foncier agricole. Quand je parle de foncier, ça va être des terres et potentiellement des bâtiments agricoles ou des bâtiments d'habitation d'ailleurs. Et on va plutôt financer des projets de taille moyenne. Mais une fois qu'on a financé le foncier, qui est quand même souvent une partie qui coûte assez cher dans un projet d'installation, mais tout ce qui est équipement, matériel, besoin en fonds de roulement, stock, etc., qu'il faut financer et qu'on peut pas financer. Et donc, c'est là-dessus qu'on a, enfin, les porteurs de projets qui vont s'installer sur le projet qu'on va accompagner vont avoir besoin d'autres acteurs, soit bancaires, soit des acteurs tels que Mimosa, ou un peu les deux, pour financer toutes ces autres choses qui sont pas le foncier qu'on va financer nous.
Florian, est-ce que tu veux compléter?
Ouais, la complémentarité pour moi, elle s'incarne même statistiquement aujourd'hui. Alors si jamais je fais le lien directement avec le crédit qui pourrait s'apparenter à la limite à une offre potentiellement alternative, concurrente ou autre, la vérité c'est que 80% des projets sur lesquels on intervient sont en cofinancement avec nos partenaires bancaires. Donc c'est vraiment l'écrasante majorité des projets qu'on finance. Nous, Mimosa, on se limite plutôt à une durée d'intervention maximum qui est de 7 ans. Donc, dans le 7 ans, en réalité, il n'y a pas tant de foncier. Je le citais tout à l'heure, pour exemple, parce que on a eu des exemples de financement et d'intervention sur du foncier agricole. C'est beaucoup plus rare. Donc, c'est plutôt la légitimité et aujourd'hui la place précieuse que prend Ferment-Vie. Mais nous, on intervient en effet plutôt sur du BFR, sur du stock, sur de la trésorerie, sur du matériel, sur du cheptel. Donc tout ce qui se ventile, tout ce qui s'amortit sur un plan d'investissement dans la limite de 7 ans. Il y a beaucoup de choses à faire passer sur 7 ans, mais il n'y a pas tout. Et donc notre positionnement, il se fait vraiment en ce sens-là. Alors le premier point, donc encore une fois, c'est que 80% des financements qu'on réalise sont en cofinancement avec les banques. Notre ratio d'intervention à leur côté et plutôt selon les projets, les besoins d'investissement compris entre 5 et 50%. Quelquefois, on est un peu majoritaire, mais on est plutôt entre 5 et 50. Plus on est bas, plus on est sur des très gros projets qui nécessitent une structuration un tout petit peu différente. Je vais citer, pour exemple, dans le solaire ou en méthanisation, typiquement, où les banques se positionnent plutôt sur des projets d'investissement en amortissement sur 20 ans, 25 ans. Et où Mimosa vient compléter l'apport en fonds propres des agriculteurs et de subventions étatiques par un financement avec un remboursement du capital qui se fait plutôt in fine sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le temps du développement du projet pour venir compléter par quelque chose qui se structure bien aux côtés des banques. Donc plus on est gros, plus le besoin de financement est important. Plus Mimosa est plutôt entre 5 et 15, 20%, plus le financement est petit, plus on peut retrouver une part de Mimosa comprise entre 30 et 50. L'emprunt moyen en agriculture, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, chez nous, il est plutôt de l'ordre de 120, 130, 150 000 euros. Voilà. Et puis après, on apporte aussi quelque chose qu'on recherche de plus en plus les porteurs de projets, à la fois en installation, reprise d'activité, mais également en développement, c'est aussi la communication. Alors, elle peut se faire de différents ordres. Quand on est sur un projet de méthanisation, vous savez que c'est un sujet quelquefois qui est sensible, donc il y a des enjeux d'acceptabilité locale que Mimosa permet, complémentairement à une banque où le financement se fait de manière un peu plus fermée. Deuxième cas de figure, quand on est sur une activité quelquefois de transformation ou de travail avec une voie de diversification et vente directe, passer par Mimosa avec un financement qui est simple et rapide en 15 jours, ça permet de faire l'acquisition, de développer sa notoriété et de faire l'acquisition de potentiels clients de manière très simple. Donc, ce sont des bases de données de plusieurs centaines de personnes que les agriculteurs ou les acteurs de l'artisanat agroalimentaire peuvent aussi solliciter. Et puis enfin, troisième cas de figure, on est un agriculteur dans une logique très filière, hein, avec distribution, négoce, coop ou industriel. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Vincent rappelait que les deux tiers des agriculteurs sont non issus du monde agricole. Et c'est vrai que la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices sont vraiment très soucieux de partager auprès du grand public leurs pratiques culturelles, de faire de la pédagogie sur l'agriculture et en même temps de désintermédier ce lien qu'avaient les agriculteurs et les consommateurs il y a encore 2, 3 générations, mais dont on s'est un peu détaché, malheureusement. Et donc, faire un lien direct entre une communauté de citoyens et des agriculteurs, peu importe que on ait une envie d'acquisition de clientèle ou de notoriété, en réalité, c'est vraiment la grande proposition de valeur aujourd'hui de Mimosa qui permet encore une fois, en quelques jours, quelques semaines, de donner accès à de l'image et à une foule de personnes qui seront peut-être utiles aussi pour la suite et le développement économique du projet.
Est-ce que je peux rajouter que j'avais cru comprendre qu'il y a une histoire de garantie aussi, mais c'est peut-être un peu trop spécifique, mais en différence avec les banques, les prêts participatifs.
Ça nous arrive de préempter des garanties. Ce n'est pas la majorité des projets, mais ça peut nous arriver.
Mais majoritairement, il n'y a pas de garantie.
Majoritairement, on est plutôt sans caution garantie nantissement sur les actifs, ce qui crée une prime de risque, donc un taux plus élevé, et ce qui rend le produit d'épargne et d'investissement aussi intéressant et attractif pour des épargnants ou des investisseurs. Voilà. Mais oui, en effet, je pense que c'est à peu près 20% avec des garanties des projets qu'on accompagne.
Là où nous, on est sur 100%.
Exactement. D'où les taux aussi.
Ouais, c'est ça.
Ok, super, merci pour ces précisions. Et
Et c'est
du coup, là, je
précieux
vais.
sur le renouvellement des générations pour compléter sur cette partie-là, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que à la fois les banques apprécient aussi de mutualiser les risques, et c'est tout à fait naturel. Et deuxièmement, quand on reprend l'exemple des deux tiers des agriculteurs qui sont non issus du monde agricole, c'est vrai que le schéma de transmission historique de la France, et pas que de la France d'ailleurs, qui était plutôt un schéma de transmission à installation avec en même temps une transmission des actifs matériels, facilitait l'accès au financement avec garantie des partenaires traditionnels, financiers et historiques du monde agricole. Aujourd'hui, quand on est dans un cas de renouvellement des générations dont plus de la moitié se fait vraiment hors cadre du monde agricole, ben, il y a un vrai enjeu parce que il n'y a pas forcément d'historique, il n'y a pas forcément les garanties nécessaires. Et donc, c'est là où Mimosa peut prendre aussi toute sa place, à la fois en matière de mutualisation et en matière d'intervention, sans garantie, caution et nantissement.
Okay. Et je reprends juste des questions qui sont un peu dans le chat, mais pour solliciter vos structures, quand on crée son projet, est-ce qu'il faut venir avec déjà une structure qui est déjà créée et sous quelle forme? Est-ce qu'il faut être une entreprise, une association est-ce que ça peut être un projet individuel peut-être juste répondre à cette question-là par rapport aux demandes de financement.
Je peux commencer parce qu'il y avait une question aussi sur les services bancaires de base où j'ai pas précisé effectivement que à la nef doit ouvrir un compte courant uniquement en tant que professionnel. Donc professionnel, on entend de l'entreprise individuelle à la SAS, enfin tout statut juridique possible et en incluant aussi les associations avec comme spécificité parce que pour ça c'est ça fait moins de 5 ans qu'on propose ça. C'était obligatoire au niveau réglementaire en fait pour l'historique, mais il n'y a pas de tarif préférentiel comme on peut avoir d'autres banques sur les associations.
Ok.
Je
Nous concernant, associations, on fait, mais pas par le crédit. Personnes physiques, on fait par le don, pas par le crédit. Et ensuite, oui, il faut avoir une structure juridique existante. On fait l'entreprise individuelle, mais sinon, c'est dans les structures un peu classiques du monde agricole, des GAEC, des ERL, enfin des sociétés civiles. Ça, bien évidemment, même si on voit que le monde agricole se réorganise aussi en matière de structuration juridique, on voit de plus en plus apparaître aussi des holdings, on voit apparaître des SAS, pas que dans les projets de méthanisation. Et donc, ça pose la question aussi de l'évolution des statuts, de la logique de financiarisation aussi derrière. Mais en tout cas, oui, pour répondre à cette question, il faut une entreprise créée.
Et de mon côté,
Okay.
je rajoute que il faut nous, on peut se rencontrer avant la création de la structure pour. Enfin, c'est toujours comme ça que ça se passe. En fait, l'extrait CABIS, qui c'est le document de création des entreprises ou la publication à la préfecture, c'est au moment de la mise en place de la contractualisation. Mais c'est pas obligatoire pour les premières discussions, l'étude du projet, l'éligibilité, etc. Et je te laisse Vincent.
Ouais, ben, nous c'est la même chose dans l'absolu. Il faudra à un moment donné créer sa structure d'exploitation, quelle qu'elle soit. Mais au démarrage des discussions, il n'y a pas besoin d'avoir une structure pour pouvoir commencer à échanger et à évaluer notre capacité à accompagner le projet ou pas.
Ok. Très bien. Ben je reviens sur nos questions à nous dans notre déroulé un petit peu. Tu l'en parlais tout à l'heure, Florian, un petit peu sur le rôle des citoyens et sur la communication qui est faite autour de ces campagnes aujourd'hui. C'est quoi le rôle des citoyens, par exemple, ben chez Fèves et comment est-ce que vous communiquez, comment est-ce que vous les sollicitez et vous communiquez avec eux sur les projets financés?
Alors, le rôle du citoyen, forcément, quand on est engagé, quand on l'est sur les enjeux de financement de la transition, c'est un rôle à la fois un peu militant sur ce sujet, à la fois d'un point de vue consommation, bien évidemment, avec ces cartes bancaires qui dessinent aussi le monde de demain. C'est toujours particulier d'en parler aujourd'hui dans un contexte inflationniste où c'est pas évident, bien évidemment. Mais ça reste tout de même une lame de fond qui, pour moi, va perdurer parce que c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, l'agriculture a cette capacité à adresser les principaux enjeux du 21e siècle. Ils sont à la fois climatiques, environnementaux et de biodiversité. Ils sont à la fois sur des sujets de sécurité alimentaire, de souveraineté pour la France, mais également sur des enjeux alimentaires mondiaux. C'est à la fois un enjeu démographique, c'est un enjeu qui est un enjeu aussi de société. Donc c'est vrai que si on s'intéresse aux objectifs du développement durable, la plupart des ODD aujourd'hui sont connectés à l'enjeu autour de l'agriculture. Donc c'est vrai que cette thématique est assez formidable en ce sens où si on cherche du sens et de l'impact, l'agriculture héberge tous ces grands enjeux-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en France, l'épargne est abondante. Là aussi, j'essaie de prendre le recul nécessaire par rapport au contexte de crise, mais on est à plus de 5 500 milliards d'euros, je crois, de dépôts en France. C'est à peu près 2 fois le PIB français. Et c'est vrai qu'on a besoin, nous aussi, des plateformes, des partenaires bancaires, des retailers, des distributeurs pour faire connaître les produits d'épargne qui apportent, encore une fois, certes, un peu de risque parce que on est souvent, comme on le répétait tout à l'heure, sur une épargne qui n'est pas une épargne de précaution comme les livrets. Alors les livrets ont plein de défauts selon moi, mais dans les quelques avantages, ça reste tout de même des placements sécurisés. Et on va dire que Mimosa est un produit d'épargne un peu complémentaire au sens où on n'est pas sur l'épargne de précaution, mais par contre on apporte un peu le lien avec l'économie réelle agricole et le sens et l'impact recherché par de plus en plus d'épargnants. Il n'y a pas un mois qui passe sans qu'une enquête ressorte avec une envie à plus de 80% des citoyens français de donner du sens à leur argent. Et donc c'est en ce sens où c'est précieux et où je pense que même politiquement on devrait aller beaucoup plus loin pour faire converger les produits d'épargne. Par exemple, je lance un sujet qui est sans fin, mais je trouve pas ça normal que les épargnants qui prennent du risque à travers Mimosa soient toujours soumis à la flat tax. Ça, c'est plutôt pour moi un peu dogmatique, mais il serait quand même précieux d'accepter, même d'un point de vue étatique, que des plateformes qui aujourd'hui répondent à des enjeux sociaux et environnementaux puissent être de petites niches fiscales pour des épargnants qui sont prêts aussi à prendre du risque. Donc l'enjeu est énorme. Et je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire de faire converger à la fois les enjeux avec les dépôts des Français. Après, sur le deuxième point, comment on fait pour faire connaître les projets? Bien, ça, c'est vraiment notre métier. Et je salue aussi la confiance des très nombreuses personnes qui sont aujourd'hui connectées sur Mimosa, puisque quand on accepte un projet sur la plateforme, il y a certes la logique du financement par le fonds que je vous ai rappelé en propos introductif, mais il y a aussi surtout la logique du financement par les épargnants. Et donc, on fait connaître les projets qu'on accepte directement par la voie de newsletter à peu près 1 fois à 2 fois par semaine pour offrir aux épargnants l'opportunité d'investir dans les projets qu'on a décidé de sélectionner sur la base d'éléments financiers, donc critères de risque, mais également sur la base d'éléments extra-financiers. Et on a développé en interne depuis maintenant quelques années une matrice impact en 48 items qui finalement mélange à la fois les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Donc tous les projets aujourd'hui sélectionnés par Mimosa sont soumis à ces critères extra-financiers. Donc d'une certaine manière, on devient aussi un label et un tiers de confiance sur ce qui va dans le bon sens quand on décide de sélectionner un projet à travers la plateforme.
Ok. Et du coup, chez FEV, vous, je sais, alors tu as parlé justement en plus de l'engagement des citoyens à vouloir investir de façon plus responsable. Et je sais que c'est le label FAIRR Finansol qui a sorti une grande étude sur ça. Vous pourrez aller la consulter. Et je sais que FEV est labellisé en plus FAIRR Finansol, du coup.
Ouais, et non mais alors de la même façon que Mimosa, l'objectif de FEV, ça a été de créer un produit d'épargne qui ait un impact fort d'un point de vue social et environnemental et qui soit un peu différent de ce qu'on peut trouver dans des livrets bancaires plus traditionnels. L'intérêt de ce qu'on propose chez FEV, c'est que Le risque pris par les investisseurs est peut-être un peu différent de celui qui est pris dans des projets en crowdfunding, puisqu'on investit dans du foncier agricole qui est un actif historiquement assez peu volatile et donc qui apporte une certaine sécurité. Alors, pas la même sécurité qu'un livret bancaire classique, mais une sécurité assez importante puisque c'est un actif tangible qui a pris de la valeur assez régulièrement dans le temps depuis plusieurs dizaines d'années. Et même si la rentabilité intrinsèque est clairement inférieure à celle qu'on peut trouver sur des investissements chez Mimosa, puisque investir dans la terre agricole, c'est pas très risqué, mais ça ne rapporte pas énormément. On a réussi à créer en fait un produit d'investissement qui donne droit à des réductions d'impôts, qui sont un petit coup de pouce donné par l'État. Florian en parlait tout à l'heure, il aimerait bien qu'il y ait un petit coup de pouce qui soit donné sur des projets, sur des plateformes de crowdfunding, ce qui serait chouette en effet. Là, nous, on a la chance en fait d'avoir ce coup de pouce qui est donné grâce à l'agrément ESUS, qui permet d'avoir cette réduction d'impôts, qui permet d'améliorer substantiellement la rentabilité pour les investisseurs. Ce qui est intéressant à mon avis, c'est que là, en fait, on parlait de complémentarité des offres pour la Nef, Mimosa et Fèves côté agriculteur. J'ai l'impression qu'il y a aussi la même côté particulier qui investit. Parce que, alors après, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord, mais la Nef propose un livret d'épargne qui a une liquidité importante et qui a un risque qui est très faible avec une rentabilité qui est aussi assez mesurée. Du côté de chez Fèves, on propose une solution qui a un risque peut-être un peu plus important qu'un livret d'épargne, mais qui reste pas très risqué malgré tout, et qui a une rentabilité, on va dire, moyenne, mais fortement améliorée par la réduction d'impôts. Et Mimosa propose des solutions d'investissement qui sont peut-être un petit peu plus risquées, mais qui rapportent un petit peu plus également, et qui permettent également d'investir des petits montants dans plusieurs projets. Donc, ça permet aussi de mutualiser ces risques et ces investissements. L'un dans l'autre, ça peut avoir du sens pour des particuliers d'avoir un petit peu de chacun de ces produits d'épargne en parallèle.
Et je rajouterais qu'il y a le côté aussi traçabilité. Du coup, le côté le moins traçable, c'est vraiment la nef. Effectivement, c'est un pot commun qui sert à financer tout un tas de projets. Là où l'extrême inverse, Mimosa, c'est c'est tout est transparent. Enfin, on sait exactement notre argent. Quel projet il va financer. Mais du coup, Feb, vous êtes un peu entre les deux, c'est ça, ou c'est pareil? Ouais.
Ouais, exactement. On est un peu entre les deux parce que on communique également sur tous les projets qu'on finance. Mais c'est vrai que les gens qui investissent dans la foncière ne vont pas financer un projet spécifique en particulier et vont financer le pot commun qui est utilisé pour financer toutes les acquisitions de fermes. Donc là, tout à l'heure, je disais qu'on a financé 16 fermes jusqu'à présent. Sur notre site, on a un détail de chacune des fermes qui a été financée, avec un détail du projet, de ce qu'on a financé, de pourquoi on l'a financé. Et donc, on est en effet un petit peu entre les deux. On a aussi beaucoup moins de projets financés, donc c'est beaucoup plus facile que la nef. Donc, c'est beaucoup plus facile de les détailler de façon un peu plus précise. Mais c'est vrai qu'on a une situation qui est un peu entre ce que fait Mimosa et ce que fait la nef.
Oui, donc on voit bien la complémentarité. Est-ce que Vincent t'a rappelé justement le fait qu'on pouvait avoir les trois en parallèle pour diversifier? Ça fait qu'il n'y a pas forcément, est-ce qu'il y a vraiment de la concurrence sur vos structures ou pour trouver justement des financements des citoyens? Ou est-ce que là aussi on retrouve des gens qui vont participer aux trois peut-être?
Pas de concurrence entre les structures. Vous savez, l'agriculture en crédit, au-delà des 10 milliards de subventions à la louche qui sont fléchées vers les exploitations agricoles chaque année, c'est à peu près dans les 11-12 milliards d'euros de crédit. C'est un marché qui est un secteur qui est très capitalistique. Au contraire, l'avenir pour moi, je pense qu'on le partage, au-delà d'un ADN de valeur et de vision, c'est plutôt le mix. Là où ce mix n'existait pas il y a encore quelques années. pour le monde agricole et les entrepreneurs du vivant aujourd'hui qui nous nourrissent. Donc c'est vraiment le mix produit qui est le plus intéressant. Chacun a sa proposition de valeur à apporter au monde agricole pour lui permettre à la fois de s'installer, de reprendre une activité, mais également de se développer et de faire face aux enjeux à la fois économiques et climatiques auxquels il va être confronté. Donc c'est vraiment le mix produit qui est le mix gagnant aujourd'hui pour le monde agricole et qu'on souhaite tous ensemble essaimer avec des bons exemples qu'on en a déjà ensemble tous les trois.
Oui, c'est exactement ça. Bah, du coup, on va parler de la ferme de Réguillon, qui est une ferme qui a été financée par les trois acteurs, et ça permet vraiment de montrer concrètement comment ça on a fonctionné sur ce projet-là. Est-ce que Vincent, tu pourrais juste présenter le projet peut-être de Réguillon et les problématiques de financement qui étaient liées à cette ferme, puisque je pense
Ouais.
que toi, tu as suivi un petit peu plus ce projet-là?
Ouais, avec plaisir. Alors, contrairement à la majorité des projets qu'on finance, c'était pas l'installation d'un jeune agriculteur, mais plutôt d'un agriculteur un peu plus expérimenté, puisqu'il a 50 ans, qu'il était déjà auparavant agriculteur, mais il était installé en tant que double actif, c'est-à-dire qu'il avait une activité sur une ferme, mais qui ne suffisait pas pour vivre totalement de son travail. Et il avait également une activité plus commerciale avec une société de distribution de semences pour l'agriculture biologique. Et en fait, il avait envie de s'installer à temps plein et de devenir vraiment agriculteur à 100% en arrêtant cette deuxième activité. Et pour des raisons personnelles aussi familiales, il avait besoin de changer de région puisqu'il s'est installé dans le sud de Nantes alors qu'il était dans le Finistère auparavant. Et donc son projet, c'est de continuer à produire ce qu'il produisait jusqu'à présent, c'est-à-dire principalement des céréales, un peu de légumineuses également, avec une grosse diversité de production, puisqu'il fait du seigle, du sarrasin, du blé, de l'épeautre, avec pas mal de semences anciennes et des rotations longues qui laissent une place importante aux prairies dans ces dans ses itinéraires techniques, ce qui permet une meilleure régénération des sols. Et sa caractéristique aussi, c'est qu'il a beaucoup travaillé sur ses réseaux de distribution et il travaille étroitement avec des meuneries pour transformer toute sa production directement. Et comme il a, ce que je disais, dans ses rotations, pas mal de prairies, il travaillait déjà sa première ferme, et puis il fait la même chose dans cette deuxième ferme où il vient de s'installer, en collaboration avec des éleveurs du coin pour bien valoriser les prairies temporaires qu'il a dans ses rotations de culture. Et donc la particularité de cette personne, c'est qu'il avait pas mal d'expérience, de l'apport financier, mais à son âge, c'est parfois compliqué de trouver des banques pour financer intégralement son projet. Et donc il a cherché une manière un peu alternative de financer son exploitation. Et c'est pour ça qu'il allait chercher la complémentarité qu'on peut avoir entre des acteurs bancaires, puisque là, donc la Nef a financé et puis avec la Banque Populaire et donc Mimosa et nous. Et donc ce qui s'est passé sur ce projet, c'est que donc on a FEV a financé les terres agricoles ainsi que l'habitation sur laquelle habite Franck. La Nef et la Banque Populaire ont financé principalement l'achat des bâtiments agricoles et Mimosa a permis l'acquisition de matériel agricole principalement. Donc voilà un petit peu comment on s'est partagé les choses sur ce projet qui est un projet assez important parce que on parle de 200 hectares de bâtiments qui sont assez importants également et donc le montant d'investissement total dépasse le million d'euros.
Pardon, j'avais coupé mon micro. Ok, très bien. Donc, si vous avez des questions sur Aiguillon, n'hésitez pas à les poser ou même sur les structures. On arrive presque au terme. Donc, on va continuer sur ce projet rapidement, mais après, on passera aux questions-réponses. Est-ce que, du coup, toi, Florian, tu peux juste nous parler rapidement de la campagne de financement participatif, combien en termes de montant, de somme et de durée, comment ça s'est passé?
Ouais, bien sûr. Donc déjà, pour toutes les raisons qu'a évoquées Vincent, pour pas être redondant, c'est un projet qui s'inscrit parfaitement dans la politique d'investissement de l'entreprise. Je souligne aussi que c'est un céréalier qui est en bio. Donc sur 240 hectares, un besoin de financement quand même qui est très important. Donc heureusement aussi qu'à nos côtés, à tous, on avait deux partenaires bancaires dont la Nef très exposés aussi sur ce projet-là. Et donc nous, comme le rappelait Vincent, on intervenait plutôt sur le financement du matériel. En complément, donc c'est un crédit qu'on a réalisé sur 6 ans, qui a été positionné en termes de taux à 5,75%, et qu'on a levé là aussi assez rapidement auprès de près de 150 épargnants particuliers qui ont fait le choix justement de soutenir ce projet de reprise d'activité et d'extension. Donc voilà, donc nous on intervenait sur le matériel sur 6 ans à 5,75 et ça a été levé auprès de 150 épargnants en quelques jours.
Ok. Et toi, Marine, est-ce que tu peux préciser
Merci.
justement comment vous êtes intervenue? Parce que je sais que Franck a fait appel à un courtier, donc c'est
Yes.
vrai que ça peut être important de le préciser.
Oui, effectivement, bah, c'est justement l'origine de la sollicitation. C'est ce courtier qui connaissait la nef, je ne sais plus d'où, mais qui nous a sollicité. Et là, nous, on a utilisé deux tranches de prêts, enfin deux prêts différents, un prêt long terme pour financer le foncier et un prêt plus moyen terme pour financer le matériel. Sur 7 ans sur le moyen terme, sur 15 ans sur le long terme, on avait mis un différé de 10 mois. Plus, ben voilà, c'est ça. Du coup, on a complété les deux, finalement, les deux besoins par ces deux tranches différentes. Voilà.
Ok, très bien. Et du coup, l'action du courtier, c'était un petit peu de s'occuper justement de proposer à Franck, voilà,
Oui.
de coordonner et de trouver les solutions. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais comme Franck était très occupé avec justement ses anciennes activités, pour lui, c'était ça. Enfin, c'était utile de passer par cette solution-là. Vincent, je ne sais plus si tu as précisé la durée à peu près de temps d'évaluation des dossiers, enfin du dossier de Franck.
La durée d'évaluation.
Enfin, entre le moment où il
Ok.
nous a contactés, enfin où le courtier nous a contactés et Franck nous a contactés,
Ouais,
et le moment où
alors
il a été
là,
installé.
je t'avoue, je sais pas, mais ce que je sais, c'est que c'est allé assez vite parce qu'il est venu nous voir, mais je saurais pas dire combien. En fait, il y a quand même des impondérables, puisque souvent pour acheter, parce que, donc avec la foncière, on va acheter du foncier agricole, et donc quand on signe une promesse d'acquisition, il se passe minimum 2 à 3 mois entre la promesse et l'acquisition finale. Après, je sais que c'était allé assez vite dans la prise de décision parce que c'était un projet qui nous plaisait, parce qu'il était complètement conforme à toutes les ambitions environnementales qu'on a avec la foncière, et que c'est quelqu'un qui avait une certaine expérience et donc avec un risque qui est relativement limité sur sa capacité à faire et à développer son projet. Et puis c'est vrai que le fait d'avoir différents autres acteurs bancaires et Mimosa qui autour de la table, bah, ça permet de sécuriser aussi, parce que quand on voit que les autres donnent leur accord assez facilement également, bah, c'est sûr que ça permet de se rassurer sur le fait qu'on n'est pas seul à trouver le projet intéressant et viable sur le papier.
Ok, oui, donc c'est un élément de réassurance aussi d'avoir tous ces acteurs-là. Et sur les projets futurs, rapidement, est-ce qu'il y en a en cours entre les différentes structures?
Oui, on en a plusieurs. Alors peut-être. Alors, comme on achète des bâtiments agricoles, lorsqu'on achète du foncier, ça nous arrive d'acheter des bâtiments agricoles. Une des choses qu'on regarde et qu'on essaye de faire sur tous les bâtiments agricoles qu'on achète, c'est d'installer des panneaux solaires sur ces bâtiments. Et donc, on a des discussions actuellement avec la Nef pour permettre le financement banque par de la dette bancaire de ces panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles. Donc ça, on le regarde sur plusieurs projets qui ont été financés sur ces 15 derniers mois. Et puis après, on a d'autres projets sur lesquels on a ou on est en train de financer le foncier agricole, et sur lequel Florian et ses équipes avec Mimosa sont en train de regarder un financement par du don ou par des prêts. Donc il y en a un qui actuellement est en train de faire sa une collecte en don contre contrepartie
Le
qui
lien
est
est dans le chat.
le lien
Ah,
en fait, exactement. Ouais.
voilà. Super, nickel. Donc c'est un agriculteur qui est dans le Lot-et-Garonne qui fait des céréales également et qui est en train d'essayer de bah, d'intégrer la transformation de ces céréales pour faire du pain. Donc c'est un projet qui est très chouette, qu'on aime beaucoup, qui est un projet assez un peu particulier parce que c'est une personne qui était déjà installée et qui était installée sur des terres en location. Et un de ses propriétaires avait envie de vendre ses terres. L'agriculteur se trouvait en risque parce qu'il ne pouvait pas racheter les terres que ce propriétaire allait vendre. Et donc il est venu nous voir pour financer ses terres de façon à sécuriser son exploitation. Sachant que lui, c'est une personne qui s'est reconvertie dans l'agriculture et qui s'est installée il y a 2 ans, et qui avait donc déjà pas mal investi il y a 2 ans, et qui n'avait pas la capacité de racheter ces terres-là. Donc on a décidé de l'aider, et l'acquisition de ces terres a lieu après-demain, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc en parallèle, il est en train de développer son projet de fournil paysan sur lequel il se fait aider par Mimosa.
Exactement. Et c'est quelqu'un qui va également solliciter les pains populaires qu'on devrait mettre en ligne entre cette fin d'année et début d'année prochaine. Donc, on a quelques projets en cours, en effet, avec la Nef et avec Ferme en Vie. Et ça tant mieux parce que ça matérialise vraiment par les exemples concrets la complémentarité de nos actions. Donc, actuellement, il est en don. Vous pouvez découvrir et peut-être soutenir ce projet. Et prochainement, il sera également en crédit sur la plateforme. Pour vous donner un ordre d'idée, on accompagne à peu près 80 projets par mois entre le don et le crédit, 80, 90. C'est une bonne dizaine ou quinzaine en crédit. Et le don, c'est une très grosse volumétrie de plus petits projets. C'est plutôt la mission d'intérêt public aussi qu'on assume chez Mimosa pour préserver un modèle agricole diversifié entre des petits, des moyens et des gros. Le risque étant, on n'en a pas parlé au-delà des chiffres avec le renouvellement des générations, que ben, finalement, si 30 000 exploitants cessent leur activité chaque année et que 13 000 s'installent, ben, en réalité, la différence entre 13 et 30, c'est une concentration aussi des fermes. Et donc, il y a un intérêt aussi public à soutenir des plus petits projets qui ont une vraie utilité sociale et territoriale.
Ok, super. Bah, du coup, je vais passer aux questions qu'il y a dans le chat. Il y en a eu quelques-unes. Je suis remontée. Alors, il y avait Gilles, c'est pour toi, Florian, qui disait Bonjour, j'ai prêté à 61 projets sur la plateforme Mimosa. 19 ne me remboursent plus. Pouvez-vous expliquer tout et pourquoi? On a parlé un peu du risque tout à l'heure, mais est-ce que tu
Bien
peux
sûr.
revenir
Alors,
dessus?
premier point, Gilles, ben merci pour la question. En effet, il y a du risque. Sachez qu'on a une équipe d'analystes et un directeur d'investissement qui sont extrêmement expérimentés. Je rappelais tout à l'heure, si toutefois c'est un symbole de confiance aussi, que 80% des projets qu'on finance, on les finance aux côtés d'établissements financiers traditionnels qui, en effet, eux, sécurisent leur intervention pour la plupart du temps, en tout cas par une prise de garantie, ce qui n'est pas le cas nous concernant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de capital prêté sur la plateforme, à peu près 5 ou 6% du capital prêté est un capital sur des entreprises qui sont en redressement ou liquidation judiciaire, donc a priori avec une mauvaise issue. En revanche, plus largement, on a à peu près entre 12 et 15% du portefeuille sur lequel il y a un peu de sous-performance, c'est-à-dire de l'aménagement de la dette. Quelquefois, on est face à des risques climatiques. Certains d'entre eux nécessitent de réaménager, de restructurer les dettes que nous, ben, justement, aux côtés des partenaires bancaires, travaillons pour permettre aussi des sorties de crise d'exploitation agricole ou d'entreprise agroalimentaire. Et il ne faut pas confondre, si toutefois vous êtes dans votre tableau de bord Mimosa, ce qui relève des provisions et ce qui relève des pertes. C'est vraiment deux choses très différentes. Si toutefois vous voyez que vous avez un TRI, donc une performance qui est proche de zéro ou négatif, il y a un mélange entre des provisions et de la perte définitive. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, quand on est face à un porteur de projet agriculteur qui, pour une raison quelquefois de stress de trésorerie, je rappelle aussi au passage qu'au-delà de la crise Covid et du post-Covid, on fait face à un contexte inflationniste sans précédent. Donc le macroéconomique a bien évidemment impacté fortement le monde agricole, mais c'est pas une excuse derrière laquelle on se cache. Mais au-delà de cela, quand on doit, par exemple, réaménager et interrompre un remboursement pendant 6 mois, la mesure de précaution qu'on prend, c'est que on passe 100% du capital en provision comme s'il était perdu, alors qu'en réalité, au bout de 6 mois, on l'espère à chaque fois, la situation reprenne. Et donc, on a déjà des exemples par le passé de projets qui ont interrompu leur remboursement pendant 3, 4, 5, 6 mois, qui sont matérialisés en termes de provision dans un portefeuille provision risque sur un portefeuille d'épargnants, mais qui ensuite reprennent le chemin du remboursement. Donc, on s'en excuse bien évidemment quand il y a la sous-performance. Et ce que je vous invite à faire, c'est toujours à bien diversifier votre portefeuille de placement, à la fois en termes de projets, donc je crois voir à travers 61 projets tout de même que c'est le cas, mais également en termes de thématiques. C'est vrai que l'agriculture n'est pas le même risque que l'agroalimentaire, qui n'est pas le même risque que les énergies renouvelables. Et typiquement, avec un portefeuille bien équilibré entre ces trois macro-thématiques, les rendements sont très souvent au-dessus des livrets réglementés traditionnels. Voilà. Ce que
Ok, merci pour les précisions. Je pense que ça rassure Gilles. Il y avait Armel qui demandait la principale différence entre, enfin, la différence entre FEV et Terre de Liens. J'y ai répondu dans le chat puisque la principale différence, elle est sur l'option d'achat qui est proposée aux agriculteurs, mais la partie foncière est plutôt la même. Comme on ne nous reste pas beaucoup de temps, je pense que ça suffisait comme précision. Et ensuite, il y avait une question pour Mimosa. Achat de foncier 82 hectares pour 570 000 euros pour projet photovoltaïque plein champ, porteur de projet un agriculteur éleveur de moutons. Est-ce que ce projet, par exemple, pourrait être éligible chez vous?
il n'y a rien dans ce que vous précisez là qui rend inéligible le projet. Donc, je vous invite à nous contacter directement. Mais peut-être que si on est justement sur une problématique aussi d'achat de foncier, cela fera sens d'en discuter avec Fermenvie. Et si en plus c'est nécessaire d'avoir une ventilation des investissements sur des durées un peu plus longues, aussi d'en discuter avec nos partenaires de la nef au passage. Voilà. Mais en tout cas, dans ce que vous décrivez là, il n'y a rien qui rend inéligible le projet et vous pouvez nous contacter directement sur mimosa.com. Vous cliquez sur Lancer mon projet, vous avez quelques réponses à apporter et un expert prendra contact avec vous pour préqualifier votre besoin et les maturités d'investissement nécessaires à côté.
Ok,
Et
très bien, donc ouais.
de notre côté, c'est un formulaire en ligne qui est dispo sur le site de la Nef. Il y a tout un parcours où effectivement vous entrez les différentes particularités, sachant qu'à la Nef, comme je disais, on est 17 sur le territoire, et donc il y a certains territoires, malheureusement, on ne peut pas intervenir. Ce tri aussi fait partie des choses qu'on... Lesquels, enfin, j'ai pas parlé dans les critères, mais ça fait partie de ça, puisqu'on est des banquiers qui ont un fort impact, ancrage territorial, pour aller voir les gens, et donc ça nous limite, étant, dans mon cas, basé à Nantes.
Okay.
Voilà, ça.
Oui, globalement, il vaut mieux proposer son projet et quitte à avoir un nom
Oui,
de la
voilà.
structure, voilà, on ne sait jamais. Et puis les uns les autres peuvent se renvoyer aussi vers ben, justement vers les bonnes solutions peut-être à ce moment-là. Il y avait du coup Johan qui demandait pour la Nef, est-ce qu'il y a des informations disponibles sur la collaboration entre la Nef et Lydia sur le Lydia Vert pour avoir un compte bancaire pour les particuliers? Donc là, c'est un peu
J'ai
spécifique à ce
essayé
niveau-là.
de demander dans mon oreillette, mais j'ai pas eu de réponse encore.
Ah, d'accord,
Mais en
ok.
gros, si, je sais que pour l'instant, c'est pas un vrai partenariat pur et dur, dans le sens où là, en fait, de ce que j'ai compris, c'est un compte, enfin, c'est tout l'argent qui est sur ces comptes spécifiques et placé à la nef, vraiment en termes de liquidité, mais ça va pas plus loin que ça. C'est
D'accord.
vraiment voilà, c'est au niveau des placements, leurs placements sont spécifiquement à la nef, mais ne les placent pas dans d'autres banques.
Ok. Et donc, il y avait Aurélien qui avait posé une question au début sur que pensez-vous de l'annonce gouvernementale concernant la création d'un France Service Transmission qui sera obligatoire et qui, du coup, complétait sa question avec, du coup, pour le France Service Transmission, est-ce que c'est OK de voir venir un concurrent qui peut tout faire à votre place? Est-ce que vous voulez réagir, peut-être Vincent?
Ouais, bah après, le truc, c'est qu'on sait pas encore exactement ce qu'il y a dans ce derrière cette annonce, parce que c'est pas complètement précisé. Je suis pas sûr que l'objectif, c'est d'avoir un concurrent qui fera tout à notre place, mais plutôt de flécher vers différents acteurs qui peuvent aider les agriculteurs dans le cadre de leur transmission et de leur installation. Ce qui est déjà un petit peu fait par les points accueil installation qui sont souvent un peu qui sont fortement connectés aux chambres d'agriculture aujourd'hui. Donc j'attends de voir un peu ce qui se cache derrière ça et ce que ça va apporter de plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui déjà, parce que j'ai l'impression que ça existe déjà un petit peu, mais après je connais peut-être pas très bien ce qu'ils ont en tête derrière leur annonce.
Ben, du coup, on attend de voir ce que ça peut donner.
Désolé, c'est pas hyper satisfaisant comme réponse.
Non, mais pas de problème. Très bien, ben, du coup, on arrive au terme. Donc, on est pile poil dans les temps. Si vous avez ben, des questions suite à ce webinaire, n'hésitez pas à nous en envoyer, à nous les envoyer et je ferai le dispatch entre les différentes entreprises qui sont là. N'hésitez pas, si vous avez du coup des projets à financer, à aller sur les différents sites pour, bah, pour proposer votre projet et voir si les uns les autres peuvent le financer. Et puis si vous êtes épargnant et que vous avez un petit peu d'argent, n'hésitez pas à le placer à la nef, à investir un petit peu chez Mimosa et chez Fève. Et je pense qu'il y a des cartes cadeaux qui peuvent être sympas aussi chez les uns les autres à mettre sous le sapin.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est que
Voilà.
dans les acteurs, enfin, ça me semblait important de parler d'un acteur que je trouve assez complémentaire avec Fève, c'est Eloi. Mais là, c'est pas du financement, c'est dans la recherche du foncier avant d'aller chercher le financement. Il faut trouver le foncier. Et vu qu'il y a une grosse problématique de taille. De taille par rapport au fait que Florian déjà dit, un sur deux, c'est des néo-paysans qui souvent veulent s'installer sur des surfaces plus petites que ce qui est proposé actuellement. Et donc Eloi, ça peut être un acteur intéressant pour quand on est à un stade de projet de recherche de foncier. Voilà. Puisqu'il rachète et il découpe. Et ils mettent enfin, ils proposent à la vente, enfin, si j'ai bien compris le système.
Oui,
Ouais,
Vincent,
tout
tu peux
à
peut-être
fait.
préciser.
D'ailleurs, on a des échanges avec eux pour potentiellement venir travailler en complémentarité avec eux, puisque parfois, ils vont s'occuper de la transmission. Et dans le cadre de la transmission, les personnes qui pourraient être intéressées pour acheter une partie du foncier ont parfois besoin de financement. Et donc, on a des discussions avec Eloi. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de projet concret avec eux, mais on discute et on échange régulièrement avec leurs équipes, et donc ça viendra certainement dans les prochains mois.
Ok, oui, Eloi, ça s'écrit Eloi pour ceux qui n'auraient pas
Cherche.
l'orthographe, voilà. Et si vous cherchez également du foncier, ben sur Fèves, on a créé une plateforme digitale qui s'appelle Lagrange, donc c'est lagrange.fèves.co et qui permet aussi d'avoir des outils de recherche de foncier qui va être avec la SAFER, enfin, qui va regrouper des annonces de plusieurs sites et donc pour la recherche de foncier, on sait que c'est compliqué, donc voilà, ça peut être pratique de s'inscrire aussi sur Lagrange si jamais vous cherchez des fermes à reprendre. Bon, ben, je pense qu'on arrive au terme. Merci à tous pour ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à nous écrire. Et puis, bon appétit à tous.
Merci.
Merci à
Merci à
tous.
tous. Bon
Merci.
appétit.
Au revoir.
Au revoir.